France Culture. À voix nue, Caroline Brouet,
Beata Omoubié-Imérès, écrivaine.
Premier épisode, la famille, c'est toute une histoire. Bonjour Beata Omoubié-Imérès.
Bonjour Caroline Brouet.
Écrivaine, de fait, vous écrivez des romans, vous écrivez des nouvelles, des poèmes, des récits, vous racontez des histoires. Mais on pourrait dire aussi que vous êtes une activiste, si le mot vous va, engagée dans des associations et des mouvements humanitaires et sociaux, notamment en matière de santé et de soins. Vous avez beaucoup travaillé auprès de MSF, du SAMU Social International, de l'association AIDE, dans la lutte contre le sida, dans les préventions contre les addictions, pour la santé mentale également. Vous écrivez depuis 2015, mais votre nom est devenu familier aux oreilles des Français et des Françaises en 2024, avec votre récit intitulé « Le convoi », qui a remporté de nombreux prix, dont le prix Essai France Télévisions, et tout récemment, en ce mois d'avril 2025, le prix Franz Essel. Le convoi dans lequel vous racontez comment vous avez échappé au génocide des Tutsis au Rwanda, votre pays, en 1994, alors que vous étiez âgé de 15 ans. Si bien que j'aurais aussi pu dire, vous présenter, comme une rescapée ou une survivante, ce que vous êtes aussi, mais pas que. Ça aurait été réducteur.
Je ne pense pas que ça aurait été réducteur, mais il me semble que vous m'avez invité parce que j'ai écrit sur cette histoire et j'ai aussi tendance à craindre de me présenter uniquement comme survivante dans la mesure où une ou deux personnes ont pu me le reprocher ou voilà, je raconte dans Le Convoi un ami qui un jour m'a dit « Pourquoi est-il écrit sur ta quatrième de couverture que tu es survivante? Est-ce que c'est ton métier ?» Ça m'a énormément blessée. Mais comme à chaque fois que je suis blessée, j'ai tendance à rentrer dans ma coquille et à faire les choses sur la pointe des pieds.
D'ailleurs, je vais vous remercier de sortir de votre coquille et de ne pas rester sur la pointe des pieds puisque nous allons avoir 2h30 ensemble. Merci d'avoir accepté cette proposition parce que c'est 5 entretiens de 30 minutes. Je sais que la parole n'est pas facile pour vous. Je sais aussi que la culture rwandaise qui est la vôtre à l'origine est une culture dans laquelle on est très pudique. Je vais essayer de respecter cette pudeur et cette réserve qui est la vôtre, d'autant qu'il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a aussi dans votre vie, dans vos livres, de l'indicible. On le lit, on le comprend. Il y a de l'indicible, il y a de l'inaudible. Il y a les deux. Et il y a même en particulier, au départ, un secret de famille originel. Quand nous avons discuté toutes les deux pour les discussions préalables, vous avez d'ailleurs tout de suite commencé, quand je vous ai demandé au départ de vous raconter, vous m'avez tout de suite dit « Ouf, la famille, c'est toute une histoire.
» Oui, je pense que mon histoire de famille est extrêmement romanesque, mais elle a été aussi très douloureuse. Alors, je ne vais pas remonter sur la génération d'avant mes parents, mais là déjà, il y avait de l'exil, de la violence. Et du côté de la famille de ma mère, il y a eu de l'exil déjà à l'époque de la colonisation. Ensuite, au moment des premiers pogroms contre les Tutsis. Et puis, du côté de la famille de mon père, j'ai appris qu'il y avait eu de la déportation, d'un côté en camp de concentration et quelques années plus tard aussi au goulag. Donc, le XXe siècle dans ce qu'il a de plus terrible. Mais quand il s'agit de mon histoire et de mon arrivée au monde, là, aussi, il y a eu beaucoup de souffrance, puisque je suis née d'une histoire d'amour qui aurait pu être vue comme belle, mais qui a dû faire face à l'opprobre de la société rwandaise, conservatrice. Ce qui fait que j'ai tendance à ne pas en parler, parce que la douleur est encore là, je pense. Et aussi parce que j'ai toujours peur, puisque c'est ce que j'ai vécu enfant, d'être réduite à ça. Et je n'ai eu de cesse depuis, je dirais, l'adolescence, d'essayer de me défaire des identités assignées. J'écris d'ailleurs là-dessus. Donc je n'en parle qu'à demi-mot, avec aussi le sentiment qu'il faudra plus d'un livre pour épuiser ce chagrin-là, et quand le temps sera arrivé.
Votre père, ce qu'on peut dire, c'est que votre père était polonais, votre mère est rwandaise, et que vous avez grandi avec votre mère seule, puisque votre père a dû repartir et rester dans sa Pologne. Vous avez grandi au Rwanda sans votre père, et donc dans un nuage de chuchotements plutôt douloureux pour votre mère, et nécessairement pour vous, avec en plus une forme de non-dit assez lourd à porter, je suppose, pour une enfant. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus fort pour vous aujourd'hui que, effectivement, la discrétion est de mise, et la discrétion doit rester de mise tant que la société n'est pas prête à entendre cette histoire.
Oui, sans doute. En fait, quand ma mère est tombée enceinte, mon père l'a... lui a proposé, ils sont partis ensemble en Pologne, donc j'ai failli naître en Pologne. C'était la fin des années 70, enfin, pardon, je parle...
Le français belge.
Je parle le français belge, en 78, avec un séjour très particulier pour ma mère. Elle était pratiquement la seule femme noire. C'était un des pires hivers, d'après ce qu'on m'a dit, de cette décennie-là. C'était la Pologne de Jaruzelski, donc un communisme dur aussi. Et au bout de quelques mois, et je pense que c'est ce qu'il a longtemps défini à mes yeux, elle a eu le courage, c'est une femme qui était très courageuse, elle a eu le courage de voir que cette histoire n'aurait pas d'avenir, en tout cas à cet endroit-là et à ce moment-là, et elle est rentrée de Pologne enceinte, très enceinte de moi. Et a commencé à ce moment-là une nouvelle vie pour elle, celle d'être une mère célibataire, et puis ma vie à moi, d'être une bâtarde, dans une société, je dirais pas puritaine, mais en tout cas très catholique, très jugeante. Et en même temps, si on me demande de parler de cette enfance, au-delà de la honte évidemment, et je dirais qu'il y a quand même eu surtout beaucoup d'amour de la part de ma mère, une volonté... très forte de me protéger, de m'offrir un avenir, en tout cas le maximum qu'elle pouvait faire pour moi. Et puis aussi, malgré le jugement de la société, des mains tendues, notamment de femmes qui ont jalonné ces années-là en l'aidant, en nous aidant, et auxquelles, voilà, c'est toujours important pour moi de rendre hommage.
Il y en a trois en particulier, mais on va en parler dans quelques instants parce que il faut juste situer les choses quand même. Beata Moubié-Imérès, vous êtes née en 1979, donc vous avez grandi dans les années 80 à Boutaré. Mm-hmm. Boutaré, c'est une petite ville d'un petit pays, le Rwanda, de l'Afrique de l'Ouest. Grandir à Boutaré dans les années 80, ça voulait dire quoi ?
Boutaré, c'était la deuxième ville du pays, ville où il y avait eu la première université. Il y avait énormément d'écoles secondaires, il y avait des instituts de recherche. Donc c'était vraiment la ville intellectuelle dans laquelle, par ailleurs, il y avait plusieurs bibliothèques, ce qui était assez rare pour un endroit comme celui-là en Afrique. Et puis, je pense que au-delà de l'aspect... accès à la culture, à l'éducation, c'était une petite ville très calme. La vie était lente, la vie était douce. le climat rwandais est extrêmement doux également. Une ville avec une grande rue principale plantée de jacarandas et des journées qui étaient rythmées par aller au travail, aller à la messe, aller à la bibliothèque et puis de temps en temps aller voir des films au Centre culturel français, mais rien de plus. Le dimanche, les matchs de football, l'équipe de Boutaré qui s'appelait Moukoura, et quand l'équipe avait gagné, il y avait des klaxons dans les rues, mais un temps long, lent et doux, finalement, qui...
On pouvait s'ennuyer quand on était enfant, quoi.
On pouvait s'ennuyer, et moi, je crois aux vertus de l'ennui. On pouvait rêver, et moi, qui étais dans une école internationale, où la plupart des élèves partaient en vacances dans leur pays d'origine l'été, j'étais souvent seule quand il n'y avait pas la visite de mes petits cousins et cousines du village. Donc, c'était la lecture, essentiellement, et puis la piscine. Enfin voilà, enfin, il n'y avait pas énormément d'activités, mais j'en garde un souvenir d'une grande douceur.
Vous disiez, Beata Moubi-Mérès, que votre mère avait constamment cherché, elle s'est battue pour que vous soyez protégée, que vous soyez préservée, et en particulier des on-dit. En particulier, là, vous venez de dire que vous étiez dans une école privée internationale, belge, donc. Elle vous a mise dans cette école-là alors même que vous n'aviez pas le niveau social pour y être, si ?
Absolument. Et d'ailleurs, dans un des premiers textes que j'ai écrits, je dis que je suis une transfuge de classe. C'est vrai que les enfants métis qui grandissaient sans leur père blanc et qui devaient aller à l'école rwandaise se trouvaient parfois stigmatisés, discriminés de par leur couleur qui ne correspondait pas à leur niveau social. C'est-à-dire que dans la mentalité de l'époque, en tout cas, ceux qui étaient blancs étaient plutôt riches, et donc une femme noire mariée à un homme blanc changeait de catégorie sociale.
Enfin, c'était souvent dans ce sens-là.
C'était souvent dans ce sens-là. Il y avait quelques couples mixtes dans l'autre sens, mais assez peu à Boutaré, en tout cas. Et donc oui, ça a été un combat pour ma maman de faire en sorte que je puisse être dans cette école internationale où, pour le coup, ma différence, ma couleur de peau n'était pas stigmatisée parce qu'il y avait d'autres enfants métis avec leur papa blanc ou leur maman blanche. Mais par contre, ce qui créait une différence pour moi, c'était la classe sociale. C'est-à-dire que j'étais avec des enfants, soit de familles très aisées rwandaises, soit d'expatriés. Et que... Voilà, nous étions plutôt de la classe moyenne. C'était pas la pauvreté ni la misère, mais j'avais pas du tout le même niveau social que mes camarades. Et donc, j'ai constamment, depuis l'enfance, jonglé entre plusieurs univers, puisque quand j'étais aussi avec la famille rwandaise ou le milieu rwandais, dans ce cas-là, ben, j'étais la blanche, mais je venais aussi, enfin, j'avais une éducation qui me mettait dans des milieux plus aisés, et c'est ce qui m'a forgé ce que j'appelle une mentalité de caméléon.
C'est presque une force à un moment de pouvoir changer.
Oui, au départ, c'est plutôt un instinct de survie, c'est de se dire comment j'évolue dans tous ces univers différents sans trop me faire remarquer, parce que quand on est enfant, on n'a pas envie d'être trop différent. Alors ma peau, je n'y pouvais rien, mais ça a été par exemple de parler le français sans accent, de parler le kinyarwanda sans accent, de pouvoir adopter les codes des différents milieux. Et quelque part, il y a pas longtemps, quelqu'un me posait une question et je me suis dit, mais peut-être que cette mentalité de caméléon m'a appris à observer énormément les autres et aussi à pouvoir m'adapter très, très rapidement. Et c'est là où je dis, c'était déjà à l'époque une sorte d'instinct de survie.
On comprendra pourquoi par la suite. En tous les cas, c'est là, en maternelle, que vous avez appris le français. Alors, je précise encore le français belge, de fait, puisque c'était une école international belge. Jusque-là, dans votre famille, avec votre mère, notamment, mais avec les cousins, les cousines, vous parliez kinyarwanda. Mmh. Donc là, c'est vraiment la découverte du français, l'apprentissage du français. C'est pour ça que vous dites, vous écrivez surtout tantôt Et que souvent, quand vous parlez, ben, on l'a entendu tout à l'heure avec 70, il y a 70 et 90, là, on dit « Ah, tiens !» C'est effectivement un Français qui vient de Belgique. Et vous aviez une institutrice. Le nom de cette institutrice belge est important parce que, là aussi, symboliquement, ça a du sens. Elle s'appelait Michèle Sauvé.
Oui, elle s'appelle toujours. Et d'ailleurs, c'était la seule institutrice française dans cette école belge. Et elle m'a tout de suite... prise sous son aile, justement, elle voyait bien quelle était la situation de ma mère et c'est elle qui m'a appris le français. Et effectivement, quand on sait que cette langue-là allait un jour participer à ma survie, voilà, enfin, ça ne s'invente pas. Et c'est elle qui m'a aussi fait entrer dans la lecture et l'écriture.
Elle vous prenait à part pour des cours particuliers le soir ?
Elle m'a fait sauter la dernière classe de maternelle en disant « Béata, je suis arrivée, je ne parlais pas français. » Et puis à un moment donné, elle a dit « C'est pas la peine qu'elle fasse la grande section. » Et alors, je me suis retrouvée en CP, enfin en première primaire. Et l'institutrice à ce moment-là, qui ne comprenait pas comment cette petite bâtarde rwandaise pouvait être considérée comme étant... en capacité de sauter une classe. Donc, je me suis retrouvée prise, en fait, entre une sorte de tension, comme ça, entre les deux institutrices, et Madame Sauvé voulait bien lui prouver qu'elle avait eu raison,
oui,
que j'étais en capacité de sauter une classe. Et donc, tous les soirs, elle m'emmenait chez elle pour me faire faire les devoirs. Et je l'ai retrouvée plus tard, et ça a été vraiment...
Madame Sauvé ?
Oui, elle habite... dans les Pays de la Loire, et je suis allée la voir, je lui ai ramené mes livres, et voilà, c'était un moment très émouvant de la retrouver et de lui dire merci.
Vous disiez tout à l'heure justement qu'il y avait un certain nombre de femmes qui avaient beaucoup compté pour vous, qui vous avaient prise sous leur aile. Celle-ci, Madame Sauvé, en est une, très clairement. La deuxième, ce serait votre marraine ?
Oui, la première d'ailleurs dans la temporalité, en fait, c'est ma marraine. Elle s'appelait Felikura Nyiramitarambirwa et c'était une féministe avant l'heure. En tout cas, elle se battait beaucoup pour les droits des femmes. Et c'est elle qui est allée récupérer ma mère à l'aéroport quand elle est arrivée de Varsovie et qui l'a vraiment aidée à refaire sa vie, trouver un emploi et c'était une femme Hutu du Sud, qui a d'ailleurs été une des premières députées féminines du pays, et que j'ai assez peu connue parce que malheureusement, elle a été assassinée quand j'avais 8 ans, je pense, 8-9 ans, puisqu'elle faisait partie de ces politiques qui, à la fin des années 80... réclamer la démocratisation et le multipartisme. C'est vrai que sa mort a été vraiment la première intrusion de la violence politique dans ma vie, qui allait ensuite évidemment aller crescendo avec les années 90. Mais en tout cas, ça a été une figure très importante pour ma mère et pour moi dans notre enfance. Et l'autre femme était une religieuse française, Christine Damez, qui était... Pareil, assez proche de ma mère, et même les religieuses de sa congrégation, les auxiliatrices, ont pas mal soutenu. Et notamment, elle a fait en sorte que sa famille en France me parraine au moment où justement je commençais l'école primaire internationale. Cette famille française qui ensuite allait m'accueillir en 94.
Ah, vous voulez dire 94, hein?
Non, ça va, je suis... Enfin, c'est quand je suis un peu...
Mais en même temps, vous vivez
à
Bordeaux maintenant, donc
oui.
Effectivement.
Voilà, donc c'est... Voilà, il y a eu plusieurs figures comme ça de femmes. De femmes surtout, oui, moi je crois... Enfin, j'ai vraiment eu des exemples de sororité dès l'enfance.
Qui n'étaient pas toutes féministes, hein, à part cette marraine députée, vous dites, qui se mobilisait beaucoup pour les droits des femmes. Il n'y avait pas de revendication particulière dans votre entourage. Enfin, c'était pas...
Non, pas à ce moment-là au Rwanda. Je pense que c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais, Mais je crois aussi qu'il y a des solidarités féminines très fortes qui se créent en dehors de consciences militantes
ou politiques.
Ou politiques. Et que parfois on a tendance à dénigrer alors qu'elles sont tout aussi valables.
Dans un de vos livres, Beata Umubiei-Meres, je crois que c'est dans Consoler, j'ai lu que les valeurs et les injonctions d'une certaine époque au Rwanda, en tous les cas que transmettaient les familles, les parents à leurs enfants, c'était l'effacement et l'excellence. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose que vous avez, vous, porté ou qu'on vous a fait porter? Est-ce que c'est-à-dire que votre mère visait pour vous à la fois l'effacement et l'excellence? C'est étonnant. L'excellence, on voit quand on est en France. L'effacement, peut-être, se rapporte à la pudeur ou la réserve dont je parlais dans la culture rwandaise. En tous les cas, déjà, est-ce que vous diriez que vous avez grandi avec ces injonctions ou ces valeurs-là?
L'effacement, certainement, à la fois en tant que fille, mais en tant que cette fille-là venant de cette histoire-là, et évidemment, paradoxalement, en tant que métisse aussi, ce besoin à chaque fois de moins se faire remarquer. Alors l'excellence, je ne sais pas si c'est le mot, je dirais en tout cas la réussite. Et moi, il y avait quelque chose d'une sorte d'injonction qui était celle de être à la mesure ou à la hauteur du bienfait qui m'était accordé, c'est-à-dire le fait d'avoir des gens qui m'aident pour faire ces études-là, être à cet endroit-là. Il fallait être reconnaissante, et la reconnaissance passait par mes réussir et prouver que les gens avaient eu raison de m'aider quelque part. Alors évidemment, ça peut être un peu lourd pour une petite fille, mais en tout cas, ça a été ma colonne vertébrale, sans doute, oui, cette injonction à ne pas décevoir, oui.
Et la gratitude.
Et la gratitude.
Que vous portez vraiment beaucoup en
vous.
Absolument,
oui, oui, oui. Je me souviens, petite, écrivant des lettres à ce que ma mère appelait mes bienfaiteurs en France, en leur disant, voilà, les résultats que j'ai eus en classe.
Comme s'il fallait prouver, ou montrer, faire la démonstration que ça n'était pas pour rien qu'ils vous aidaient.
Je pense que c'est l'éducation qu'on reçoit au Rwanda. Enfin, la gratitude passe par ça finalement. Il ne s'agit pas juste de dire merci, mais de faire fructifier ce qu'on nous donne. Et j'ai fait du mieux que j'ai pu.
C'était pas mal. Juste un mot supplémentaire peut-être sur cette ambiance très intellectuelle, très culturelle, ce bouillonnement presque à Boutaré, puisque vous disiez il y avait plusieurs bibliothèques, c'est même un bain culturel déjà métisse d'une certaine façon, parce que il y avait un musée ethnographique à Boutaré d'un côté, et il y avait le centre culturel français, deux bibliothèques, une librairie, donc pour une petite ville de ce pays, c'est vrai que c'était beaucoup. C'est là que vous alliez lire beaucoup, c'est là que vous avez découvert, en dehors de Madame Sauvé, des livres de Madame Sauvé, les lectures qui allaient vous forger cette culture littéraire qui a été la vôtre.
Oui, absolument.
Et cinématographique d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi pas mal de films.
Des films, oui. J'ai grandi en voyant ma maman lire. Elle avait été institutrice avant de m'avoir, donc c'était aussi, c'est ce que je dis toujours aux nouvelles générations aujourd'hui, on apprend à lire en voyant nos proches lire. Et donc il y avait effectivement ce centre culturel français, il y avait la librairie de l'extension universitaire, la bibliothèque aussi, et les gens se retrouvaient autour des lectures, échangeaient, enfin il y avait une envie de lire, d'apprendre, de s'ouvrir au monde. Alors, c'était essentiellement de la littérature
européenne.
Européenne.
Ouais.
Je n'ai découvert les littératures africaines qu'en arrivant, paradoxalement, en France. Mais peut-être parce que j'étais aussi dans cette école belge où j'apprenais l'histoire et la géographie de la Belgique et non celle du Rwanda. Alors, c'était...
C'est pour ça que le contexte est toujours important.
assez étrange. Mais ce que je dirais aussi, c'est que Boutaré était une ville, et ça se ressent beaucoup au début du génocide, c'était une ville qui était très modérée, où les Hutus et les Tutsis vivaient ensemble, vraiment. Enfin, j'ai grandi sans.
D'ailleurs, on ne disait pas Hutu Tutsi.
Ça ne se disait pas, vraiment.
Mais on était rwandais.
En tout cas, pas dans le monde où j'ai grandi. Ma maman avait aussi bien des amis Hutus, Tutsis, et puis quand petite, je ne savais pas d'ailleurs. Ce n'est que quand il y a eu des tensions. Dans les années 90, que tout d'un coup, j'ai commencé à poser des questions. Et je pense que ça, c'était peut-être spécifique à la ville de Boutaré, qui était proche de la frontière avec le Burundi, et où il y avait aussi beaucoup de gens du monde entier. Il y avait une petite communauté omanaise qui était là, enfin l'Afrique de l'Est, depuis des générations, des Pakistanais, et puis des Canadiens, des Français, des Belges, des Suisses. Le Rwanda était aussi un pays... où la coopération et l'aide au développement s'étaient beaucoup, beaucoup étendues. Et tous ces gens-là formaient le petit monde de Boutaré avec les professeurs d'université, les professeurs de lycée, de collège.
Et alors, qu'est-ce que voulait faire cette petite fille quand elle était petite, quand elle serait plus grande? Est-ce que vous aviez déjà des envies, des souhaits? Alors, bah, d'enfant, hein, mais...
Alors... À l'enfance, je ne sais pas, mais à l'adolescence, je sais que je voulais être journaliste. Et alors, c'est très émouvant de le dire à France Culture, mais je rêvais d'être speakerine à la radio Rwanda. Nous n'avions pas de télévision, donc j'ai vraiment grandi avec la radio. Il y avait la radio Rwanda, on écoutait aussi la radio Burundi, où là, ils avaient deux chaînes. Et je voulais être journaliste, mais à la radio.
Bon ben voilà, vous parlez à la radio aujourd'hui. Sans que ce soit professionnel, en tous les cas, pas encore. Cette enfance, peut-être pas insouciante compte tenu de ce que vous avez dit au début et des poids que vous aviez sur les épaules, mais enfin, cette enfance douce, en partie, à moitié, a en tout cas pris fin au début des années 90, Beata Umubyeyi-Meres. Vous aviez 15 ans quand le génocide contre les Tutsis perpétré par les Hutus a été déclenché le 7 avril 1994. À ce moment-là a commencé une traque de 2 mois. Vous avez été miraculeusement sauvé par une organisation humanitaire suisse, Terre des Hommes. Et c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, l'épisode 2. Merci beaucoup.
Merci.
À suivre l'épisode 2, le convoi de la vie. C'était À Voix Nue avec Beata Umubyeyi-Meres, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.